Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin, Sébastien de Courtois au micro de Chrétien d'Orient. Je reçois l'anthropologue Manoël Pénicaud avec qui nous allons explorer le projet Lieux Saints Partagés, une thématique basée sur la coexistence en Europe et en Méditerranée et qui fait l'objet d'une exposition en ce moment présentée au grand public dans le cadre de Musée de l'Histoire de l'Immigration au Palais de la Porte Dorée à Paris, une exposition chaleureuse, importante et sensible, dont vous êtes l'un des commissaires. Nous vous avions déjà reçu pour évoquer ensemble la figure du grand orientaliste Louis Massignon, et nous savons que la question des identités religieuses vous préoccupe. Vous, le voyageur, l'explorateur de ces sites d'Orient, où chrétiens et musulmans et juifs peuvent se retrouver. Bonjour Manoël Pénicaud.
Bonjour Sébastien.
Alors cette exposition et ce projet beaucoup plus vaste que vous menez dans vos recherches depuis pas mal d'années déjà, hein, j'ai l'impression que c'est un travail au long cours. Lieux saints partagés, ça se base, je crois, sur le principe de l'hospitalité d'Abraham.
En effet, l'hospitalité d'Abraham est constituée un fil rouge en fait de cette thématique, et on peut rappeler rapidement cette légende ou ce récit dans lequel Abraham reçoit trois mystérieux visiteurs qui passent devant sa tente sous la chenée de Mombré. Il les invite à déjeuner, et c'est l'un de ces trois personnages qui va annoncer à Sarah qu'elle va donc enfanter. Et ce mythe, hein, si l'on parle en tant que, on peut parler le considérer comme un mythe, est repris dans les trois monothéismes et est un message d'accueil de l'autre, de l'étranger et même de l'autre religieux. Il se trouve du coup qu'il y a un grand nombre de sanctuaires en Méditerranée et en Europe aussi, dans la rive nord de la Méditerranée, qui sont ouverts aux fidèles de religions différentes.
Donc ce sont des lieux partagés, donc ce sont des lieux saints ou des lieux de culte, nous allons expliquer un petit peu la différence, où chaque membre de ces monothéismes, alors ça dépend bien sûr des lieux, peuvent se retrouver et partager un moment de recueillement peut-être.
Alors exactement, mais sur le plan anthropologique, on pourrait distinguer les lieux de culte des lieux saints, c'est-à-dire que les premiers sont plutôt consacrés à l'exercice du culte hebdomadaire, à l'assemblée, c'est l'étymologie même d'église, de synagogue ou de mosquée, tandis que les lieux saints sont plus des lieux de pèlerinage marqués par une densité spirituelle, une force, hein, un pouvoir qui va attirer plus de monde de façon plus ponctuelle, même de façon plus extraordinaire, disons, les gens peuvent s'y rendre une fois dans l'année ou même une fois dans leur vie. Et en fait, la Méditerranée est parsemée comme ça de lieux parfois peu connus, mais qui sont chargés de cette intensité, donc liés au culte des saints en général. Et les gens viennent chercher une grâce. Alors en arabe, on va parler de baraka, que ce soit pour les chrétiens ou les musulmans. Même les juifs d'Afrique du Nord, d'ailleurs, parlent aussi de baraka. Et c'est cette baraka qui est divine, qui a une fonction thérapeutique, notamment. Et en fait, cette quête permet et autorise le franchissement de la frontière religieuse. Et je précise, sans jamais qu'il n'y ait conversion. C'est-à-dire que ces personnes s'autorisent ce franchissement de la frontière ou des murs d'un sanctuaire en gardant évidemment leur propre identité. Et souvent, les gardiens du temple, les personnes qui administrent un lieu, qu'ils soient moines dans le cas d'un monastère ou dans une autre, peu importe la situation, la configuration, se montrent accueillants, en écho à l'épisode d'Abraham dont j'ai parlé. Donc c'est la philoxénie d'Abraham. Philoxénie, c'est l'amour de l'étranger qui là se révèle et se pratique au quotidien. Et cette hospitalité interreligieuse, comme je l'appelle, est vraiment constitutive de ce phénomène. Et on doit en même temps la distinguer un peu de ce qu'on appelle le dialogue des religions, qui est très pratiqué à la mode, notamment en Occident. Mais en Orient, il y a beaucoup plus cette notion d'hospitalité où les gens se croisent et se voient, mais sans forcément se parler. Tout cela se fait de façon très humaine et parfois dans le silence. Mais la connexion peut être très, très profonde.
Là, ce sont les lieux qui permettent aux personnes de se rencontrer.
Alors, ce sont les lieux où les gens se rencontrent, mais ce sont des lieux qui sont marqués par la présence symbolique ou réelle, cela dépend de chacun, de certaines figures. Alors, il suffit, on a parlé d'Abraham, mais on pourrait parler de Marie, qui est un pont extraordinaire entre chrétiens et musulmans. Énormément de lieux saints, dédiés à Marie autour de la Méditerranée sont visités quotidiennement par des musulmans, parce que Marie est la mère du prophète Jésus. Et là, il y a vraiment aussi une passerelle fondamentale.
J'évoquais un projet au long cours. Vos recherches sur cette thématique remontent à plusieurs années. J'imagine, c'est une étonnante actualité dont vous nous parlez quand même.
Et certes, alors cela, nous sommes un peu parfois rattrapés par cette actualité, mais en même temps, ces recherches montrent qu'il y a un véritable sujet, et je crois qu'en tant que chercheurs, nous devons traduire ces observations, ces résultats, dans un langage sensible pour le grand public, et donc l'exposition est un médium tout à fait recommandé, disons, et qui fonctionne parfaitement bien.
Exposition et puis un livre, il y a un très très beau catalogue qui vient de paraître aux éditions Actes Sud, donc on peut encourager nos éditeurs d'abord à visiter l'exposition Palais de la Porte Dorée à Paris pour ceux qui sont à Paris ou en région parisienne, ou sinon se procurer cet ouvrage. Est-ce que vous parleriez du rôle social de l'anthropologue par exemple ?
Nous ne voulons pas, alors quand je dis nous, c'est parce que je travaille notamment de concert avec Dionigi Albera, qui est directeur de recherche au CNRS avec moi, et depuis de longues années, nous travaillons ensemble.
L'UNESCO, je crois, est impliqué dans le projet.
L'UNESCO a apporté son label à l'exposition à la Porte Dorée, exactement. Et donc nous sommes conscients de notre engagement citoyen, là. Le chercheur est citoyen aussi. Et nous devons propager, non pas la bonne nouvelle, mais en tout cas, des clés de lecture. Du présent, du contemporain, et y compris dans la longue durée aussi, pour permettre aux visiteurs de faire un pas de côté par rapport aux représentations, par rapport à la peur de l'autre, justement à cet autre qui fascine, mais qui horrifie en même temps, qui terrorise. Alors là, par le vécu, des films, par des photos, par des objets, des documents, des archives que nous collectons depuis maintes années, nous racontons une histoire en fait. Et c'est pas un contre-récit, mais disons c'est un récit alternatif et qui dans lequel on voyage de lieu saint en lieu saint, des rives de la Terre Sainte jusqu'au Maghreb en passant par la Turquie pour faire connaître d'autres réalités.
Et vous utilisez des méthodes contemporaines, vous êtes dans l'interaction avec le lecteur, avec l'auditeur, avec la personne qui visionne des films, parce que vous utilisez des multimédias.
Exactement, depuis des années, moi je travaille avec un appareil photo, une caméra, et donc du coup ça permet évidemment d'être très, c'est très direct en même temps dans la restitution. Donc ces films permettent de faire vivre ces lieux, c'est-à-dire qu'on peut montrer des images fixes, des tableaux, des icônes anciennes ou des objets de culte liturgique, mais le film permet de les mettre en situation. Donc tout à coup, vous avez la sensation de la foule, du monde, de ces lieux de pèlerinage qui peuvent rassembler des dizaines de milliers de personnes.
Vous vous immergez dans ces foules, dans ces masses qui prient, qui se rassemblent. Vous êtes un explorateur du contemporain, peut-être ?
Peut-être, mais oui, c'est le but, je crois, de la pratique anthropologique qui est basée sur ce dogme, on pourrait dire, de l'observation participante. L'anthropologue participe et observe en même temps. C'est-à-dire qu'on est à la fois témoin, mais on doit aussi être acteur pour ressentir, si tant est que ce soit possible, même par empathie, l'expérience vécue par les gens que l'on observe. Et donc on va marcher avec eux, il y a quelque chose de très profond, même intérieurement, hein, qui je ne vous cache pas, qui crée vraiment une passion pour ce métier que je suis très honoré de faire.
Vous n'êtes pas insensible ?
Je ne crois pas.
Alors, il y a deux lieux que j'aimerais que nous évoquions ensemble, particulièrement symboliques justement de cette rencontre. Un lieu saint partagé avec Manuel Pénicaud ce matin. Vous pensionnez l'île de Bouyukada. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu la Turquie et Istanbul, en grec c'est Prinkipo, je crois. C'est ce chapelet d'îles qui est au large d'Istanbul, de la mer de Marmara. Qu'avez-vous observé là-bas?
Alors, au sommet de cette île se trouve un monastère grec orthodoxe dédié à Saint-Georges, fameux pour une icône miraculeuse. C'est souvent le cas en Orient de ces monastères, donc une icône miraculeuse de Saint-Georges qui a généré de nombreux miracles au cours des siècles. Et depuis un certain nombre d'années, on voit chaque année, deux fois par an, notamment pour la fête de Saint-Georges le 23 avril et la fête de Sainte-Thècle le 24 septembre, des foules de pèlerins venus d'Istanbul, mais ces foules sont majoritairement musulmanes. Et donc on arrive à une jauge assez aléatoire, mais de plusieurs dizaines de milliers de personnes, certains parlent même de 100 000 personnes. Lors de cette journée, l'île est complètement envahie de personnes qui vont visiter Hagia Gheorghi, comme ils disent. Mais ce qui est très intéressant...
Qu'est-ce qu'ils viennent chercher là?
Mais ils viennent chercher ce qu'on pourrait dire, un rapport au sacré, en fait. Quelque chose de plus large que ça. De plus large que le saint, en fait. Ils peuvent appeler le lieu Hagia Gheorghi, parce que c'est le Gheorghi étant Georges. Mais il n'y a pas véritablement conscience en cet endroit-là de Saint-Georges. Mais les gens savent que c'est un lieu sacré pour les chrétiens. Et comme ces miracles ont été attestés et répandus, les gens franchissent cette frontière. Là, ils franchissent la mer en bateau, débarquent le matin et montent au monastère à pied, en attendant parfois des heures pour entrer dans l'église, pendant l'office grec orthodoxe qui dure aussi des heures. Et là, les gens prient dans l'église de façon tout à fait ostentatoire et de façon tout à fait... partager justement. Et c'est très très étonnant de constater une telle foule, une telle abondance.
Vous avez interviewé vous-même ces Turcs musulmans qui viennent prier. Qu'est-ce qu'ils viennent vous dire? Ils font des vœux?
Ils font des vœux. Je crois que la pratique votive est la base un peu de ce pèlerinage. Dilek, le mot turc dit dilek pour parler du vœu, qui prend des formes très 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 variés. Les gens vont fabriquer des petites poupées à partir de tissus, d'objets pour se marier par exemple. Donc ils vont avoir deux poupées qui vont matérialiser un couple. Ils vont dessiner une maison. Donc ce sont souvent des attentes très basiques, prosaïques, très humaines et finalement très, très communes au fond. Parce que c'est la guérison, c'est un enfant, c'est le mariage, c'est du travail, c'est la réussite à un examen. Il n'y a rien de fantastique là-dedans. Tout est très humain. Toutes ces attentes partagées, donc il n'y a pas que les lieux qui sont partagés, se matérialisent de façon vraiment chatoyante. C'est assez incroyable et je voudrais expliciter, raconter en tout cas l'un des rituels les plus emblématiques de ce pèlerinage.
Donc pèlerinage à Saint-Georges, qui est un lieu grec orthodoxe, qui accueille des pèlerins musulmans.
Le monastère grec orthodoxe, et donc beaucoup des pèlerins, donc la majorité étant musulmans et la majorité étant des femmes aussi, déroulent des fils de coton du bas du chemin jusqu'au monastère, alors en silence, et elles déroulent une bobine de fil à travers les arbres. Et croyez-moi qu'au bout de 2-3 heures, dès 9-10 heures du matin, le chemin est littéralement tapissé de fils de toutes les couleurs multicolores qui s'entrelacent, Et c'est assez fascinant de se rendre compte que chaque fil représente un vœu, que tous ces fils sont entrelacés, sont tous de couleurs différentes, ils vont tous dans la même direction et ils sont complètement anonymes. Et potentiellement déroulés par des Arméniens, par des orthodoxes, aussi par des musulmans. Et donc là, il y a une métaphore très signifiante.
Un autre lieu important, nous sommes en Syrie et le monastère, les deux lieux d'ailleurs, à côté au nord de Damas, je crois, le monastère de Marmoussa, dont nous avons déjà parlé dans cette émission avec la figure emblématique du père Paolo, et de Mar Eliane. Alors dites-nous un petit peu ce qu'il se passe dans ces endroits.
Alors là, c'est la communauté de Marmoussa qui est connue par son fondateur, Paolo Dall'Oglio, qui est un jésuite italien qui a disparu, ou en tout cas qui est potentiellement, avec des guillemets, otage de l'État islamique à Raqqa, qui a été enlevé en 2013, ou plutôt qui s'est rendu spontanément à Raqqa pour libérer des otages chrétiens et musulmans, dont deux évêques, et qui s'est offert quelque part en otage volontaire pour libérer d'autres otages, sauf qu'il n'en est jamais ressorti. Et Paolo avait fondé, à partir des années, du début des années 80, un monastère. Il avait restauré un vieux monastère syriaque, lui est de rite syriaque catholique, dans la montagne au nord de Damas, et il a créé cette communauté de Marmoussa, qui s'appelle Al-Khalil aussi, qui est le nom arabe d'ailleurs d'Abraham, donc vous voyez bien la connexion.
Donc là, nous ne sommes pas dans le cas d'un lieu saint partagé, mais d'un lieu de culte partagé, ou pas?
Alors c'est là que les frontières de la définition que j'ai donnée ne sont pas si rigides, et qu'il y a des porosités aussi, qu'un lieu de culte peut aussi être l'objet d'un pèlerinage. Mais il y a quand même, pour le cas de Marmoussa, il y a ce saint qui était Saint Moïse, l'Abyssin, non pas Moïse, Dieu de l'Ancien Testament. Donc c'est aussi un lieu saint, parce qu'il a été marqué par la présence et la vie de ce saint abyssien. Et ce lieu a connu un assez grand succès, basé sur le dialogue interreligieux et l'hospitalité, justement. Tout visiteur était invité, jusqu'à avant la guerre, en fait, de Syrie. Et cette communauté s'est basée à Mareliane, aussi, à quelques dizaines de kilomètres de là, à Al-Karyatine, qui est une ville habitée par chrétiens et musulmans. Et là, c'est le père Jacques Mourad qui a rénové, lui aussi, ce vieux monastère du 5e siècle, et a aussi initié des croisements. Il n'était pas rare que les musulmans viennent aussi prier sur le tombeau du saint Mareliane, un saint du 5e siècle. Et là, cette philoxénie, encore une fois, qui est vraiment constitutive, hein, de l'expérience de cette communauté, est sans doute la cause aussi de la menace et même des attaques dont ils ont fait l'objet, puisque le monastère a été attaqué et détruit en juin 2015 par les forces de l'État islamique, et le père Jacques a été à son tour otage de l'organisation.
Est-ce que ce principe même de coexistence, sinon de cohabitation sur les mêmes lieux, a été l'objet justement de ce fanatisme?
Exactement. Cette ouverture dérange les tenants des plus strictes orthodoxies, des plus fanatiques, pour ces extrémistes de l'État islamique, qu'un lieu attire des congénères, des coreligionnaires musulmans est une hérésie. Or, il y a dans l'exposition une interview du père Jacques Mourad qui montre bien que pour lui, il y a des gestes qui sont partagés. Les musulmans viennent aussi allumer des bougies, déposer des offrandes. Il raconte ça très simplement en disant qu'en fait, il y a une humanité commune et que pour lui, les portes de son monastère sont ouvertes à tous.
Est-ce qu'on ne redécouvre pas finalement avec des mots contemporains ce qui a toujours existé, c'est-à-dire vivre ensemble, le partage, la culture?
Oui, et d'autant plus en Orient qui, pendant des siècles, a été basé, notamment dans l'Empire ottoman, sous la règle un peu du bon voisinage, avec évidemment des minorités toujours il n'y a jamais eu une égalité, et les situations ont souvent été, il y avait une différenciation, etc. Mais avec la montée des États-nations au cours du XXe siècle, de toutes les chamboulements géopolitiques, les frontières se sont érigées et souvent les communautés se sont souvent écartées. Mais il demeure encore de nombreux cas d'hospitalité, de croisements, de rencontres.
Est-ce que vous êtes optimiste pour ces survivances, vous l'anthropologue, l'observateur de ces endroits reculés?
Oui, parce que si je reste sur le cas de Jacques Mourad a été otage tous les jours, il raconte ça très bien, mais il a cru qu'il allait être exécuté.
Il s'est échappé de l'emprise de Daesh.
Il a pu s'échapper avec l'aide d'un ami musulman, c'est assez intéressant. Et aujourd'hui, il est réfugié au Kurdistan irakien, dans un monastère de la même communauté qui s'appelle El Adra, donc qui porte le nom arabe de Marie. Et lui ne cesse de voyager et prône encore une fois cette ouverture continue, même s'il a été l'otage et une victime potentielle, au contraire, à un discours de paix et de concorde. Et on voit, donc l'anthropologue, nous en voyageant, etc., on apprend chaque jour l'existence de nouveaux lieux, de nouvelles configurations, notamment dans les Balkans. Donc il y a un phénomène toujours in vivo, qui évolue.
Une recomposition permanente.
C'est ça. Il y a des lieux qui se rigidifient, des lieux qui se ferment, des lieux qui se replient sur eux-mêmes. Mais il y a aussi des lieux qui s'ouvrent et il y a des initiatives plus contemporaines qui émergent.
On a quelques minutes encore. Revenons sur le père Jacques Mourad. Comment lui interprète sa libération? Enfin, sa libération, son... quand il s'est échappé.
Là, c'est très profond et je vais essayer de rendre ça explicite, mais il faudra peut-être que chacun aille chercher par lui-même son récit. Jacques a été tétanisé dans cette salle de bain où il est resté des mois, enfin des semaines, emprisonné. Et un jour, il a reçu la visite d'un chef de l'État islamique et qui a été cordial. Avec qui, même j'allais dire, qui a été hospitalier et qui a dit à Jacques, considère cette captivité comme un temps de retraite, khalwa en arabe, qui est le mot religieux pour la retraite spirituelle dans l'islam ou dans le christianisme aussi. Et Jacques là a opéré un retournement et a réussi du coup à retrouver une force intérieure. Et il a vécu du coup cette épreuve sur ce plan-là. Et quelque part, cela l'a sauvé. Et il en parle de façon très, très touchante. Et il en parle justement dans cette exposition.
Vous l'avez interviewé ?
Oui, bien sûr. Il vient régulièrement en France. Il est souvent en Italie, parce qu'ils ont aussi un monastère à côté de Rome. Donc, il est, comment dire, sa tête est mise à prix. Il ne peut plus retourner en Syrie, ça c'est sûr. Mais il ne cesse de prôner justement cette parole, justement, que déjà, ils avaient... depuis une vingtaine d'années, avec Paolo Dall'Olio, commencé à propager.
Cette exposition est une première en son genre. Il y a eu des tentatives au MUCEM à Marseille.
Plus qu'une tentative, non. L'exposition a été fondée et conçue au MUCEM en 2015. Elle a eu un grand succès, plus de 120 000 personnes. Et depuis, nous la développons et en la réécrivant à chaque fois. Là, il y a une version en Grèce aussi, à Thessalonique. L'exposition en cours à Paris. Nous préparons avec le MUCEM une version à Marrakech, ce qui devrait aussi être fort de sens. Une version, pardonnez-moi, a été aussi présentée au musée du Bardo, qui était un musée martyr, l'année dernière. Donc. Et de prochaines étapes se préparent donc aussi à New York et Istanbul.
Nous étions avec Manuel Pénicaud pour évoquer cette exposition « Lieu saint partagé » qui a lieu au Palais de la Porte Dorée. En ce moment, je remercie Dany Journeau, Anne-Catherine Lochard et Alain Joubert pour la réalisation de cette émission. Nous retrouvons maintenant le service protestant avec Michel Schaeffer. Merci.